Session Amitié et Contemplation, Père Marie-Dominique Philippe, 30 juin 1997, Saint-Jadard, deuxième conférence.
Ça, nous dialoguons avec vos questions. En premier lieu, l'après-midi, c'est quelquefois plus difficile. Maintenant, il fait pas chaud, alors ça va. Votre main, la philosophie, un cours de philosophie. Ça fait ronfler et dormir. Alors, il vaut mieux pas. Les questions seront après, mais je vais aller assez vite quand même. Je vous laisse.
Vous avez dit ce matin qu'on peut parler, tout en étant chrétien, de l'amitié du point de vue purement humain. Est-ce qu'on peut vivre une amitié en dehors de la vie chrétienne ?
Est-ce que l'amour d'amitié tous les anciens ont parlé, dont Aristote a consacré dans son éthique à Nicomaque deux livres, comme quelque chose d'absolument essentiel pour éveiller le sens moral éthique. Aristote n'est pas chrétien. Il a parlé de l'amitié comme quelqu'un qui en a vécu. Pas du tout, spéculativement, mais de façon très pratique. La grâce ne détruit pas la nature, la grâce chrétienne. La foi ne détruit pas l'intelligence, au contraire, elle l'éveille. La grâce n'est pas un idée noire, ni la foi. L'espérance non plus, et la charité non plus. Normalement, la grâce chrétienne doit assumer notre nature humaine pour lui permettre d'être plus homme, plus femme, que si on n'était pas chrétien. Trop souvent, c'est vrai, la grâce chez certains chrétiens apparaît comme un été noir. Et la foi aussi. C'est pour ça que Merleau-Ponty n'hésite pas de dire « Je n'aime pas te parler à un catholique. » Pourquoi ? Parce qu'il sait tout. C'est-à-dire qu'il ne cherche plus. Il reçoit. Qu'on reçoive le catéchisme quand on a 10 ans, je comprends. Mais quand on a déjà un tout petit peu vécu, qu'on essaie de comprendre que Jésus est là pour nous permettre, avec sa lumière, d'aller plus loin, pas que lui, mais plus loin que les autres hommes, pour mieux comprendre ce qu'est l'homme. Mais il y a une connaissance humaine qui demeure. Mais c'est qu'on use mal de la foi, on use mal de la grâce, quand de fait, on oublie que la grâce ne supprime pas la nature humaine, mais au contraire, l'ennoblit, l'enrichit et lui permet d'être plus homme. Il faudrait que les chrétiens qui sont de vrais chrétiens soient plus hommes que ceux qui n'ont pas ce privilège de la grâce chrétienne. Plus accueillants, plus désireux de connaître la vérité, plus désireux d'aimer les hommes et de comprendre la richesse qu'il y a dans tout homme, curieux de développer ça.
Une question par rapport à une chose que vous avez touchée ce matin, par rapport aux sciences. Le progrès scientifique et technique empêche-t-il en lui-même de découvrir ce qu'est la personne ?
Non, pas du tout. Mais constamment, on s'en sert pour un but qui n'est plus humain. On s'en sert pour se glorifier. Alors si on s'en sert pour se glorifier, ne sont pas mauvaises en soi, mais ils sont donnés à l'homme, ou l'homme les acquiert, pour qu'on soit plus homme, qu'on aille plus loin dans la vraie dimension humaine. Et la philosophie est là pour nous rappeler quelles sont les finalités de l'homme, quelles sont les vérités que l'homme cherche par rapport à l'homme.
Justement, pourquoi est-ce la philosophie qui permet de découvrir le sens de la vie? Pourquoi est-ce qu'elle est une sagesse?
Elle est une sagesse parce que justement, progressivement, cherchant en profondeur l'homme et de réaliser de véritables amitiés avec d'autres hommes. Découvrir l'amitié, c'est une force très grande de dépasser nos passions, mais ne pas du tout les rejeter. Un homme, une femme qui n'est pas passionné du tout devient très vite ennuyeuse. Or, c'est pas le but d'être ennuyeux pour son voisin. La philosophie ne supprime pas du tout les passions, sauf certaines philosophies qui ne sont pas assez réalistes. Alors, elle, qui dit que toute passion est mauvaise, une vraie philosophie qui cherche la réalité, la vérité, reconnaît que les passions, c'est quelque chose de bon si elles sont orientées vers les vraies finalités de l'homme. Et les vraies finalités de l'homme, nous verrons, c'est l'amitié et la contemplation. Et c'est pour ça que nous avons pris ça comme sujet, comme thème. Vous chercherez bien petit à petit, et je cherche depuis déjà assez longtemps. J'aime à dire que je suis le plus vieux philosophe du monde qui enseigne. C'est une curiosité, vous voyez. Cherchez, vous ne trouverez pas. J'enseigne la philosophie depuis 1935. Et j'enseigne tout le temps depuis, dans des lieux très différents, heureusement. Alors aujourd'hui, on est professeur de philosophie pour gagner sa vie. C'est très bien de gagner sa vie en enseignant la philo, je suis tout à fait d'accord. J'ai enseigné la philosophie dans une université, et donc je gagnais quelque chose. Et comme j'étais religieux, je n'ai pas touché un soin, je n'ai pas vu, je n'ai pas touché aussi ce condamné. Ça allait au couvent. Donc j'en étais très libre. Et je ne faisais pas de la philosophie pour gagner ma vie. Et j'étais très heureux de gagner ma vie avec ça, pour le couvent. Comme c'était de l'argent suisse, ça valait quelque chose. Et le philosophe ne fait pas de la philosophie pour gagner de l'argent suisse. Il fait de la philosophie pour chercher la vérité et pour aimer davantage l'homme. Et je vous affirme, donc depuis 1935 ou 37 si vous aimez mieux, ça fait quand même un certain temps, on pourrait dire, oh, mais alors maintenant on n'a plus rien à chercher. On a tout le temps à découvrir. Il y a toujours des choses qu'on découvre davantage. D'abord, on voit que très peu de personnes et très peu de philosophes cherchent la vérité. personne n'a encore dit. Moi, je fais l'inverse. Je cherche à creuser ce que les philosophes ont trouvé d'essentiel. Ils ont trouvé d'essentiel quoi ? L'amour d'amitié, la contemplation. Dans l'ordre de la recherche de la vérité, sont pas du tout cohérents avec eux. Ils sont très cohérents quand il s'agit des voyages. Ah oui. Quand tu dis ce lieu est très beau, tout le monde y va. Tout le monde y va. Si tu disais la vérité, mais il n'y a rien de plus intéressant que de découvrir les multiples vérités pour aboutir à la recherche de la vérité. C'est vrai. On a des quantités de philosophes qui l'ont cherché. Et cherchons avec eux, parce que c'est très important et c'est très intéressant. Non, on cherche l'originalité. Alors pendant tout un temps, on a cherché l'angoisse. Comme si l'angoisse définissait l'homme. Je comprends que c'est intéressant de chercher l'angoisse, mais il y a autre chose dans le cœur de l'homme. Et quand vous ne parlez que de l'angoisse, vous créez l'angoisse. Bref.
Pour découvrir cette finalité, comme philosophe, on part de l'expérience, mais notre expérience est souvent déformée. Par exemple, peut-on savoir ce qu'est l'amour sans avoir expérimenté de véritable amour ?
C'est véritable, c'est vrai, on met du temps à découvrir. Parce qu'on met du temps à savoir, regarder et être attentif. Et la philosophie apprend à être attentif à l'expérience. Parce que tout dépend d'expérience. De nos expériences. On rencontre quelqu'un qui nous intéresse. Qui, on voit bien, dévoile au plus profond de notre cœur des choses que jusque-là, on n'avait pas osé dire. Parce que très souvent, on croit qu'on est original que dans nos bêtises. Alors que la bêtise est ce qu'il y a de plus banal. Ce qui est beaucoup plus original, c'est de découvrir la vérité. Tellement peu d'hommes qui cherchent la vérité aujourd'hui. Alors prenons ces petits sentiers.
Une philosophie qui ne fait pas référence à Dieu est-elle forcément menaçante pour l'homme ? Une philosophie qui ne fait pas référence à Dieu est-elle forcément menaçante pour l'homme ?
Le philosophe commence par l'expérience. Le théologien chrétien commence par la révélation. Les commencements ne sont pas les mêmes du tout. Le philosophe commence par l'expérience parce que tout homme un peu éduqué, un peu intelligent, aime les expériences qu'il fait. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. L'expérience, nous en avons tous. Vous avez une expérience nouvelle de venir vers ici la session. Fameuse expérience, douche d'eau froide, douche d'eau chaude, fameuse expérience, c'est vrai, faut aller loin au monde pour découvrir un amphithéâtre philosophique comme celui-ci, avec des moines derrière, des religieuses contemplatives aussi par derrière. Tire pas dans le dos. C'est extraordinaire. Vous êtes en toute sécurité. C'est une expérience étonnante, merveilleuse. Mais ça parce que c'est intéressant de chercher ensemble la vérité quand on peut avoir confiance qu'au milieu de nous, il n'y a pas une bombe cachée. On ne fait pas la police. Grâce à Dieu, on n'est pas encore obligé de la faire. Pour voir si quelqu'un de ceux qui viennent ici à la session n'a pas une bombe dans la poche. Pour le dernier jour. Recherche de la vérité. Et donc, on a confiance les uns avec les autres. Et on ose chercher ça ensemble. C'est une expérience. L'expérience ne demande pas la foi. Ne demande pas la charité. L'expérience, c'est l'homme dans sa nature. Sur une île seule, qui regarde les plantes, qui regarde les oiseaux, et qui cherche à comprendre, et qui a des émotions de temps en temps, et puis qui a de la joie, et puis qui est heureux. L'expérience est une chose humaine. Et c'est à partir de l'expérience que je cherche. Or, Dieu, pour le philosophe, pour l'homme tout simple, pour Jean-Jacques, l'homme, je veux dire Dieu, échappe à notre expérience directe. Mais c'est pas très astucieux de dire Dieu, vous l'avez jamais vu, donc il n'existe pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai jamais vues et qui quand même existent grâce à Dieu. C'est vrai, je n'ai pas d'expérience directe au plan philosophique de Dieu. Tandis que le croyant avoir une expérience de Dieu. Je me souviens, c'est déjà vieux, au début j'enseignais la philosophie. J'ai vu dans une comme ça, une petite session, une jeune fille qui faisait de la philosophie à Paris. Qui m'a dit, on m'a invité à avoir une expérience directe avec le démon. Mais pour le philosophe, c'est une drôle d'histoire. Est-ce que je peux? Alors, j'ai essayé de voir si c'était sérieux ou pas en l'interrogeant. Et j'ai vu que c'était très sérieux. Il y avait une filière. Alors ça l'intéressait. Parce qu'elle m'a dit, mais vous dites que la philosophie commence par l'expérience. Moi, je désire avoir une expérience avec le démon. Alors je lui ai simplement dit, il y a beaucoup d'autres expériences à avoir avant celle-là. Et je vous conseille plutôt les bonnes que les mauvaises expériences. J'aime pas beaucoup d'avoir l'expérience de la griffe d'une tigresse. Et je vous conseille pas, au plan philosophique, d'avoir l'expérience d'un coup de patte d'ours. Il y a des bonnes expériences et des mauvaises expériences. Et des mauvaises, il y en a suffisamment. Je sais vite plutôt un accident, c'est une expérience. Un accident de voiture. Deux voitures qui s'embrassent. Un drôle d'accident. Je ne vous souhaite pas d'avoir cette expérience-là. laissez votre ami en avoir une. Il vous dira comment ça se passe. Il y a expérience, et expérience positive qui nous aide, qui nous développe. Nous vont aller plus loin. Puis expérience négative, avoir l'expérience du mal. Je la cherche pas. Je trouve bien assez dur ma vie. Je sais que le mal existe. Je sais. Parce que j'ai vu des gens qui souffraient. Le mal existe. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre terriblement, vous n'avez pas du tout envie d'avoir son expérience. Tandis que quand vous voyez quelqu'un qui semble heureux, joyeux, vous dites comment es-tu joyeux? Comment es-tu heureux? Vous attirez. Il y a des expériences qui attirent, puis des expériences négatives. La philosophie sait que toutes ces expériences existent. Et dans la mesure où je peux, j'évite les expériences négatives. Parce que je ne sais jamais jusqu'où ça ira. C'est ce que j'ai dit à cette étudiante qui me demandait si elle pouvait avoir cette expérience du démon. Je lui dis, contentez-vous de celle qui vous en parle. Mais ne vous y frottez pas. Parce que vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Et c'est vrai. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Donc, on part de l'expérience immédiate. Les hommes, qu'on constate, notre philosophie est une philosophie réaliste de la réalité. Je ne fais pas l'expérience, je ne fais pas la philosophie des possibles, mais la philosophie de l'homme tel qu'il vit, tel qu'il cherche la vérité. Et progressivement, je me poserai la question en philosophie. Est-ce qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu? Le mot Dieu vient des traditions religieuses. Ce n'est pas un mot que les philosophes ont inventé. Parce que les philosophes n'ont pas une expérience directe de Dieu. Mais ils se posent la question. Les traditions religieuses qui me parlent de Dieu, qui me parlent du Créateur, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Ça a été la grande question de Platon. Et Platon est quand même à l'origine, on peut le dire, avec Aristote, de toute la philosophie européenne. Toute notre philosophie dépend de la philosophie grecque. Qu'on le veuille pas, hein. Ce sont nos grands-pères philosophes. Et on reconnaît que quelqu'un comme Platon devait être merveilleusement intéressant et séduisant. Or, Platon, de fait, s'intéresse aux grandes traditions religieuses et se demande si on est en face de mythes. L'homme a besoin d'avoir des mythes. Aujourd'hui, on dit des dada dans sa tête. Hein. J'aime mieux dire des mythes. C'est plus noble. Mythe de l'origine, mythe du terme, mythe de la naissance de l'homme, et ainsi de suite. Mythe de l'âme. Est-ce que tout cela, c'est une vérité une réalité ou c'est purement imaginatif? Quand vous êtes en face de certains articles, de certains journaux, de communication, de la télévision, vous vous demandez, est-ce que tout ça c'est un peu exagéré? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que ce sont des mythes? Des mythes, c'est intéressant. Point de vue artistique, de très beaux mythes. On vous raconte de très belles histoires. Les enfants aiment beaucoup ça. De très belles histoires. Il y a toujours en nous un cœur d'enfant qui aime les mythes. Et quand vous grandissez, vous vous dites, est-ce que ces mythes, ça touche la vérité? Ou est-ce que c'est de la fantaisie? La fantasia. Et au fond, le philosophe, lui, quand il s'agit du mystère de Dieu, se pose la question. Il doit se poser la question, comme philosophe. Est-ce que ces mythes racontent de très belles histoires? Quand vous lisez l'Écriture, la Bible, et que vous voyez la création de l'homme et de la femme, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Et ce discernement-là, le philosophe doit le faire. Et c'est intéressant pour lui de le faire. C'est intéressant pour l'homme.
Encore deux questions. Vous avez dit que le philosophe cherche la vérité.
Oui.
Ne faut-il pas mieux dire qu'il cherche les vérités ou des vérités? La vérité n'est-elle pas multiple?
Non. En vérité, si l'ose philosophe peut se poser la question... Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le Créateur existe? À ce moment-là, il touche la vérité ou l'erreur. Il y a une question fondamentale, mais c'est très vrai qu'à l'égard de l'homme, à l'égard de l'intelligence, de la volonté, de l'art, quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de l'art dans la vie humaine? Ce sont des vérités. Le philosophe cherche des vérités. Et en dernier lieu, il cherche la vérité. Existe-t-il une vérité? C'est une question philosophique. Il y aura des philosophes qui répondront. Il n'existe que des vérités. Et jamais la la vérité.
Durant cette session, nous allons parler de l'amour, d'amitié et de la contemplation. Mais voyez, nous, mon père, on n'est pas très, très au fait des choses. On est au début, alors. Quelqu'un qui n'a pas encore découvert l'existence de Dieu...
Première fois que j'étais en Grèce, parce que comme j'aime Aristote, comme j'aime Platon, j'aime la Grèce, Athènes. Alors on avait été dans les îles, parce qu'évidemment à Athènes, on trouve hélas beaucoup de physionomies communes avec la Suisse, la France, l'Espagne, l'Italie, la Suède. On n'est pas tellement dépaysé. Il n'y a que les requins qui vous dépaysent. Quand on dit « les requins sont là » dans la baie, faites attention. Sûr.
Cela existe.
cela met du temps. Et très souvent, aujourd'hui, on n'a plus le temps de contempler. Et c'est pour cela que, de fait, il y en a si peu qui parlent de la contemplation, qui parlent de l'angoisse. Et c'est vrai, parce qu'hélas, il y a beaucoup plus de beaucoup. Ça vous tombe dessus. Alors on met un nom scientifique. Je sais pas si ça apaise. Et quand je dis à quelqu'un comme ça, je sais pas ce que c'est que l'angoisse, j'ai pas eu l'expérience et que je la cherche pas, il va le considérer comme un fou. Aujourd'hui tout le monde est angoissé, quoi. C'est ce qu'il m'a dit. Mais tout le monde est angoissé. Je dis non, je cherche la contemplation et non pas l'angoisse. On voit très bien ce que c'est que l'angoisse. Mais on dit voie sans issue. L'angoisse, voie sans issue. Si je peux éviter l'angoisse, je fais tout ce que je peux pour l'éviter. La recherche de la vérité. Le meilleur remède contre il faut s'y prendre d'avance. Quand vous êtes déjà angoissé, vous ne prendrez pas cette voie-là. Mais je vous dis, voie sans issue, l'angoisse. Et c'est vrai, on n'a pas du tout envie de s'engager dans cette voie-là. Or, on fait tout pour angoisser tout le monde, pour angoisser les gens aujourd'hui. Donc, pour les diriger vers cette sans issue, tandis que la contemplation, c'est la voie qui nous conduit à l'épanouissement, à la joie. Passer par l'amitié, il y a une halte là qui est bonne. Alors essayons d'entrer dans cette voie amour d'amitié. Et puis nous entrerons après dans l'autre voie qui conduit à la contemplation. Parce que c'est intéressant de voir ça. Pour le philosophe qui cherche à connaître ce qu'est l'homme, c'est ça qu'on recherche. Puisque l'homme est la réalité la plus parfaite que je peux expérimenter, dont je peux serrer la main de cette réalité, que je peux voir, que je peux entendre. C'est la réalité la plus parfaite que j'expérimente. C'est l'autre. L'autre qui me dépasse. L'autre qui me fortifie. L'autre qui peut faire un bout de chemin avec moi. Un compagnon. Puis quelquefois ce compagnon se change et devient un ami. Et c'est quelqu'un. Le philosophe qui cherche la vérité sait que c'est en connaissant l'homme qu'il pourra connaître les vérités les plus importantes. Comprenez bien que la vérité la plus intéressante à connaître, c'est de savoir qui je suis. Et si on peut se rencontrer, on sera deux fois plus fort. Parce que j'aurai quelqu'un à côté de moi qui m'aidera. qu'est-ce qu'on fait? Si on peut, on prend le gosse, je le mets sur ses épaules. Tu vois maintenant? Ah oui, c'est beau. Et l'angoisse disparaît. L'angoisse provient du primat de la négation. Bon sens. Hein? Non, c'est comme ça que ça se passe. Et puis un beau jour, je sais pas par quelle guêpe il a été piqué, il y a un théologien qui a dit non, c'est la négation qui est première. Et voyez pourquoi il disait ça. C'était un théologien. Et ce théologien était très impressionné que lorsqu'il s'agit de la connaissance de Dieu, la négation est plus certaine que l'affirmation. Je dis bien était plus certaine. On ne cherchait pas la vérité, on cherchait la certitude. Et dans la connaissance de Dieu, Maître Occam, puisqu'il s'appelait comme ça, Occam, 14e siècle, a affirmé avec force que la négation était première. Le parallélisme du primat de la négation au niveau de l'intelligence, au niveau affectif, c'est de dire la haine est première à l'amour. Et ce qui m'intéressait dans le temps, je ne le fais plus maintenant, je l'ai fait pendant de longues, longues années, c'est chaque année de prêcher une retraite à des classes terminales. Et au milieu de la retraite, je faisais deux cours de philosophie en interrogeant mon public. Il y a un beau jour, c'est pas tellement vieux, il y a peut-être 30 ans de ça, c'est pas vieux pour moi. Pour vous, l'amour ou la haine? C'est une très bonne interrogation. Il y a des examens de conscience philosophique. Qu'est-ce qui est premier pour vous, l'amour ou la haine? Jusque maintenant, j'avais toujours entendu l'amour. Et puis là, c'est les philosophes. C'était vieux, mais dans le bon sens des jeunes, dans la vitalité des jeunes, ça n'avait pas pénétré. Tandis que cette fille m'a dit, c'est la haine qui est première. Alors j'ai dit, alors vous n'aimez quelqu'un? Alors elle a tout de suite repris, je n'aime personne. Ça m'a beaucoup frappé. C'est une expérience. C'est pas vrai que vous n'aimez personne. Puis j'essaie d'avoir un particulier. Alors elle me dit, c'est vrai, j'ai aimé. Mais j'étais malheureuse d'aimer. Parce qu'on m'a pas rendu l'amour. Je dis, parce que vous n'avez pas su le recevoir, peut-être. Oui, ça revient au même. C'était brutal. Ça revient au même. Réfléchissez. Est-ce que la haine peut être première? Oui, c'est très intéressant. La négation est première. Et quand on regarde alors dans l'histoire de la philosophie européenne,